וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. בלק אבו כי ישראל אבפה או אמורים, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא, ויקץ מואב מפני בני ישראל. Donc Moab a eu peur, et très peur. Ils se sont tournés vers les anciens ennemis. Ils sont tournés vers Moab, vers Midian, pardon. Et puis ils l'ont demandé de l'aide, en fait. Et bon, ils ont réfléchi et ils ont envoyé, comme tout le monde sait, ils ont envoyé des émissaires auprès de Bilaam. Donc on a deux grands personnages, Balak et Bilaam. On va regarder aujourd'hui un peu la paracha avec le Shem Ishmoël. Shem Shmuel, c'est un grand maître chassidique. Il avait un très très grand père qui était à la fois un grand maître chassidique, mais aussi un grand possek. Balak a peur. Il a peur d'Israël, mais en fait, le Shem Shmuel explique qu'en réalité, la peur d'Israël qu'il a, c'est pas qu'il a peur de l'Israël tel qu'il est devant lui dans le désert. Il a une peur complètement différente. Les Bnei Israël dans le désert, ils sont dans une situation où la présence d'Hachem est absolument évidente, d'une part. Et la présence d'Hachem est évidente, les Bnei Israël sont protégés par les nuées, et ils ont à manger la manne, des cailles, les chemina, et ensuite ils ont de l'eau avec le puits de Myriam jusqu'à la mort de Myriam en tout cas. Et puis, ils sont pas du tout distraits par quoi que ce soit de matériel. Mais les Bnei Israël, d'une certaine manière, tant qu'ils sont dans le désert, ils ne sont pas du tout un modèle pour les Umot HaOlam, parce qu'ils sont dans des conditions radicalement différentes. Le problème, c'est que quand les Bnei Israël vont arriver en Eretz Israël, si effectivement ils vivent en Eretz Israël sur le modèle qu'Hachem leur a donné, ils vont donc montrer que on peut vivre une vie, disons, normale, comparable en tout cas à la leur, tout en respectant les valeurs de la Torah. Donc c'est d'une certaine manière l'excuse qu'il y a que c'est la Torah, c'est pas quelque chose qui est adéquat pour la vie telle que les Umot HaOlam la vivent. Cet argument-là, il va tomber. Donc, en fait, ce que Balak craint, il craint les Bnei Israël arriver en Israël. Parce qu'alors, quand ils seront en Israël, tout va changer. C'est sûr que Hachem va les aider, mais il faudra un effort nécessaire des hommes. Il faudra régler le problème de la pluie. Il faudra régler le problème de l'armée. Et tout ça peut se régler. Où ça va se régler normalement, selon, tout en respectant la Torah. Donc ils vont montrer que c'est possible. Balak, il a peur de cela. Et donc ce que Balak veut, c'est qu'il reste dans le désert. Il veut qu'Israël reste dans le désert. Il y a eu, dans les années 50, il y a eu un rav, un grand Talmid Chacham, le rav Herzog, qui est le dont l'actuel président de l'État est le fils, le petit-fils, pardon, qui voulait montrer, qui a montré comment on pouvait concilier les problèmes technologiques qui s'imposent dans un État, résoudre les problèmes de l'eau, de l'électricité, de la police, de l'armée, etc., de façon complètement conforme à la halakha. Ça, c'était dans les années 1950, quelque chose comme ça. Bon, c'était très élaboré, très intelligents, il y a un grand Possek, un grand décisionnaire, Eliezer Waldenberg, qui a écrit entre 15 et 20 volumes de Shelot et Tshuvot, dans tous les domaines, et qui a écrit trois volumes sur la halakha à l'intérieur de la Médina. Bien sûr, c'était peut-être un peu trop mais qu'il, selon le goût de certains. Et d'ailleurs, les livres en question, ils étaient out of print pendant très longtemps. Ça a été récemment réédité. On peut d'ailleurs les trouver sur Hebrew Books. On peut trouver aussi le livre, l'ouvrage du Rav Herzog là-dessus. Alors bien sûr, ça ne peut pas être adapté à la situation actuelle dans la mesure où la technologie de 1950 et la technologie de 2025 n'ont quasiment rien à voir. L'explication du Shem Ishmoel sur donc la possibilité qu'il y a de vivre en Eretz Israël conformément aux règles de la Torah, ça répond à une question que le Prophète Sraïm a posée. Alors, comme vous savez, dans les psukim, ils sont allés chercher Bilam, et qu'est-ce qu'ils ont demandé à Bilam? Ils lui ont dit, voilà, Am Yatsa mi Mitzrayim, il y a un peuple qui est sorti d'Égypte et il est installé en face de moi et il a couvert en quelque sorte la face de la terre. Et donc je suis complètement effrayé. Ve'ata, et maintenant, le Chana, viens, s'il te plaît. Arali est à amasser. Maudit pour moi ce peuple. Kiatsum hu mimeni. Parce qu'il est trop puissant pour moi. Oulai, quand tu l'auras béni, quand tu l'auras maudit, pardon, nakebo. Peut-être pourrais-je alors le frapper, vagarchen, et je le fais le chasser du pays. Ki yadati et asher tevarer mevorach, vasher taor yuar. Pourquoi on vient chez toi? Parce que je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Alors, il y a une question que tout le monde se pose et que pose aussi le prophète Sraïm. C'est pourquoi est-ce que Balak demande la malédiction d'Israël? Pourquoi il ne demande pas la bénédiction de Moab? Bénis-nous que nous puissions le battre. Pourquoi la clala? Bon, il y a d'abord une réponse bon, qui est probablement la vraie réponse, qui est qu'en réalité, la puissance de Bilam, elle n'était que du côté de la malédiction. Il n'avait pas la possibilité, il n'avait pas la force. Il ne pouvait pas bénir. Par contre, il pouvait maudire, mais la malédiction que Bilam pouvait donner, ça n'était pas par la force de sa parole. Il y a des midrashim qui disent que quand Balak a essayé de savoir qu'est-ce qu'il avait vraiment en face de lui, c'est quoi ce peuple-là qui sort d'Égypte en face de lui, il a fait une enquête et il a appris que ce peuple était dirigé par un certain Moshe. Il a demandé. C'est quoi la puissance de quel, c'est quoi la force de Moshe, de ce Moshe? On lui a dit, la force de ce Moshe, c'est sa parole. Alors ils se sont dit, il faut qu'on trouve quelqu'un qui ait une force de parole qui puisse être opposée à celle de Moshe. Donc on est là, allé chercher Bilam. On va revenir sur la personnalité de Bilam, et on lui a demandé de maudire. Donc, je vais chercher en tout cas, là, dans cette explication, on sait qu'ils sont allés chercher quelqu'un qui a une force aussi dans sa parole, mais en réalité, la puissance de Bilam, elle ne venait pas du tout de sa parole. La Gemara, elle dit que il y a chaque jour un moment où Akadosh Baruch Hu se met en colère. Et la Gemara, elle dit, mais que c'est en fait la source de la puissance de la parole de Bilam, c'est justement le fait que lui savait quand Hachem se met en colère. Et donc sa force, si on peut parler comme ça, c'était que sachant quand Hachem se met en colère, si vous voulez, c'est comme si on sait quand la foudre est susceptible de tomber, alors lui, ce qu'il savait faire, c'est la dévier. Il pouvait pas produire la foudre, mais au moment où il y a la foudre, il pouvait la dévier. Et donc, il la faisait tomber sur les gens qu'il était censé maudire. Alors ça marchait très bien parce que c'est la colère divine qui faisait le travail. La Gemara, elle demande, la Gemara dans Brachot, elle demande, ça dure combien de temps, ce moment de colère d'Hachem? Et la Gemara, elle répond, ça dure un réga. Elle s'appuie sur le passouk dans Tehilim, qui régabe apo. Donc on parle d'un réga de la colère divine. Dans la chaîne de la Gemara, ça s'appelle Idan Ritra, le temps de la colère, le temps du bouillonnement de la puissance. Donc lui, il savait quand avait lieu ce moment de un regard. Mais Tosfot, là-bas dans Brachot, pose la question, il demande, mais si la colère d'Hachem, elle ne dure que un réga, et que lui, il veut maudire, faut qu'il dise quelque chose pendant ce réga, mais qu'est-ce qu'on peut dire le temps d'un réga, qu'est-ce qu'on peut dire qu'il soit une klala? Non, c'est comment? Est-ce qu'il y a un mot qui marche? Le Chazal explique que le mot, premièrement, d'abord, il y a une première explication, c'est que il suffit qu'on ait commencé à maudire durant ce réga, du coup, on peut continuer même en dehors de ce réga. Commencer au bon moment, ça permet de continuer même en dehors de ce bon moment. Halakhiquement, c'est une question qui est posée. Il y a un temps pour dire le chemin du matin. On doit lui dire le chemin du matin dans les 3 premières heures de la journée. Donc, c'est les heures smaniot, c'est-à-dire c'est les heures relatives à la, si vous voulez, c'est le quart de la partie diurne depuis le lever du soleil, un quart de la partie diurne, c'est ce temps, durant ce temps-là. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un commence le schéma 1 minute ou 30 secondes avant le terme de ce quart-là et qu'il met tout le reste du schéma, à part les premiers mots, sont dits en dehors de ce laps de temps? Donc la question que se pose, c'est est-ce que ça suffit? Est-ce qu'avec ça, on s'acquitte du schéma? Est-ce qu'on va pouvoir considérer qu'on a dit le chemin en son temps, si on l'a commencé? Bon, a priori, c'est pas comme ça. Mais bon, certains voulaient s'appuyer cette idée que si ça commence, ça suffit, quoi. La deuxième réponse de Tosfot, c'est de dire que le mot rega, il a 2 syllabes. Rega. Donc, il y a un mot pour maudire que Bilam va utiliser, qui lui aussi a 2 syllabes. C'est Kalem. Kalem, c'est détruit-les. C'est le En fait, c'est ce verbe-là, une forme verbale-là, elle a été utilisée par Yoshua quand Eldad et Medad ont prophétisé la mort de Moshe Rabbeinu. Yoshua a demandé à Moshe, a donné Moshe Kalem, détruis-les, ces prophètes de malheur, quoi, qui parlent de ta mort, etc. Donc lui, voilà, il a trouvé un mot qu'on peut dire pendant ce laps de temps de Réga. Oui.
Sachant qu'on n'arrive même pas à déterminer, comme vous avez expliqué une fois, le passage du coucher du soleil à l'entrée de Shabbat.
C'est ni pour toi ni pour moi. Il faut être bilingue pour savoir. Ça va venir. Ouais. L'Agmara rapporte que Rabbi Meir, il avait des gens qui le rendaient malade, qui l'attaquaient tout le temps. Et il a décidé de les maudire. Et lui, il a appris qu'on pouvait savoir quand a lieu ce réga. On lui a dit, c'est un moment où la crête du coq commence à rougir, etc. Donc il a décidé, il a mis un coq au pied de son lit et il a commencé à observer le coq en étant. Il s'est dit à ce moment-là, je vais maudire mes ennemis, je vais les détruire. Bon, problème, c'est qu'il s'est endormi. Ça n'a pas marché. Alors il a compris que ça n'allait pas, que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. On raconte une autre histoire, à peu près du même genre. Il y a un passouk qui dit Itamu chataim min haaretz. Donc lui, il a voulu dire que ces chataim, ces gens qui l'embêtaient, il voulait que le verset Itamu, il voulait dire ce verset contre eux. Itamu chataim min haaretz. C'est-à-dire que ces gens-là soient disparaissent. Mais là, c'est sa femme, c'est la fameuse Brouria, qui a dit qu'il faut pas lire Krataïm, les gens. Pas, lui, il disait Khotim. Khotim, c'est-à-dire les fauteurs. Faut lire Krataïm, c'est les fautes elles-mêmes qu'il faut détruire, c'est pas les gens. Bon, c'est la même idée que, bon, c'était, il a compris que ça fonctionnerait pas comme ça. Donc, ça veut dire, que sur la question de savoir comment on peut savoir, Rabbi Meir, il savait. Donc, c'est pas, pour moi et pour Rabbi Meir savait. Il y a un Hatam Sofer qui élabore un peu sur ce Tosfot et il dit la chose suivante. Dans Pirkei Avot, on parle des élèves d'Avraham Avinu et des élèves de Bilam. Pirkei Avot, on nous dit, soyez plutôt des élèves d'Avraham plutôt que des élèves de Bilam. Et dans Pirkei Avot, on explique c'est quoi la caractéristique des élèves d'Avraham Avinu. Alors, la première caractéristique qui est donnée, c'est Ain Tova. Littéralement, ça veut dire un bon œil. C'est pas la question de savoir si on a 10 sur 10, mais le Ein Tova, c'est une forme de générosité, c'est le fait d'avoir du plaisir avec la joie des autres. Ein Tova, se réjouir de la réjouissance des autres. On comprend bien ici, souvent, ça nous est difficile parce qu'il y a, souvent, il y a un peu de jalousie qui s'y mêle et donc ça devient difficile. La vérité, c'est que se réjouir de la joie des autres, c'est plus difficile que d'avoir de l'empathie pour la souffrance des autres. À cause de ce problème de jalousie, en fait. La deuxième qualité des élèves d'Abraham Avinu, c'est Ruach Nemucha, c'est la nécessité d'avoir de l'humilité, de la modestie, de l'humilité. Et ensuite, la troisième, c'est un nefesh, c'est-à-dire d'être heureux avec des choses relativement simples, pas obligatoirement des très très grandes choses. Et les élèves de Bilam, c'est exactement le contraire. Le contraire de Ein Tova, c'est Ein Ra'a. Ein Ra'a, c'est ne pas supporter que l'autre ait quoi que ce soit, même si je l'ai aussi, mais je ne veux pas que l'autre l'ait. Pour faire de l'humilité, c'est donc l'arrogance. Et puis le troisième cas, c'est quand, à quoi il rêve, Bilam, on me dit, si Balak me donnait une maison pleine d'or et d'argent, etc., le trésor, c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Les goyim, à la fin de l'histoire, ils disent à Hachem, si tu nous avais donné un prophète comme Moshe, nous aussi on aurait accepté la Torah. Et Hachem leur répond, mais je vous ai donné Bilam. On ne comprend pas très bien, ce n'est pas une réponse. Bilam, ce n'est pas Moshe. Mais c'est pourtant la réponse qu'Hachem a donnée, donc c'est il faut qu'on comprenne en quoi c'est une réponse. Moshe et l'Avdil Bilam sont deux super doués. Mais l'un va utiliser cela pour le mal et l'autre pour le bien. Mais ils ont en commun cette grandeur possible. La grandeur de Moshe, ça a été de, malgré toute cette super cette qualité d'être super doué, etc., il a su rester humble. La non-grandeur de Bilam, si on peut parler comme ça, c'est qu'il pense à un moment donné qu'il peut être supérieur à Hachem. Il pense qu'il pourra rouler Hachem. Il pense que bien qu'Hachem ne veuille pas qu'il aille pour maudire, il pense que, ah, peut-être comme Hachem lui a demandé qui sont les gens qui sont venus te voir. Et cet imbécile, il a, c'est presque incroyable. Il en a déduit hardiment que Hachem ne savait pas qu'il venait le voir. Un peu la même erreur que qu'Adam Arishon, quand Hachem lui demande où es-tu? Alors il a répondu au 42e degré de latitude nord et il a donné ses coordonnées, comme si Hachem avait besoin des coordonnées. Bilam, en vérité, c'était un très grand prophète. On est obligé de dire que de la réponse d'Hachem, que d'une certaine manière, à ce niveau-là, il est l'égal de Moshe. Quand dans le texte on dit que Lokam b'Israël, que Moshe on, b'Israël Lokam. Mais chez les goyim, il y a eu Bilam. Sauf que Bilam a fait les mauvais choix.
Alors, comment comme Bilal qui a fait le mauvais choix, il aurait pu porter l'égoïsme vers l'acceptation de l'esprit, par exemple? Est-ce que c'est ça la question que vous
Non, non, mais eux, il a fait les mauvais choix. Après, le problème, c'est Moshe, il a fait des choix. Les choix n'ont pas plu complètement à Hachem. Quand Hachem a dit à Moshe, tu vas aller libérer les Bnei Israël, il a dit non. Et pendant une semaine, il a résisté. Et Hachem s'est fâché et il lui a enlevé la Kehuna Gdola, il a donné à Aaron. Et il lui a dit, tu n'entreras pas en Eretz Israël. Moshe a fait des choix. Les choix de Moshe, au départ, c'est semble-t-il, pas le bon choix. Mais ce n'est pas un choix. Le choix était mauvais disons, pour de bonnes raisons. La raison pour laquelle il ne voulait pas aller sortir les Bnei Israël, on l'a déjà dit plusieurs fois, d'une part, il ne voulait pas marcher sur les plates-bandes de son grand frère, et deuxièmement, lui, il voulait pas que Hachem libère les Bnei Israël de façon prématurée, parce que cette libération prématurée l'entraînait la nécessité d'avoir d'autres exils. Moshe voulait qu'Hachem donne la force aux Bnei Israël de résister et de rester 400 ans en Égypte, et puis après, c'était terminé. La sortie d'Égypte était définitive, il n'y a plus de galoute nécessaire. Mais Hachem n'était pas d'accord. On voit bien que Moshe, là-bas, ce n'était pas pour son confort personnel qu'il a dit « J'y vais pas parce que je suis très bien comme berger d'Yitro, je suis tranquille, peinard, etc. » Non. Alors, Hachem sait très bien qu'il a de bonnes raisons, mais il n'y a pas de raison qui tienne devant la volonté d'Hachem. Et ça, semble-t-il, Moshe ne savait pas au départ. Parce que sinon, s'il l'avait su, il se serait écrasé. Mais il a pensé que non, je ne vais pas m'écraser. C'est des arguments tout à fait audibles. Deux. Mais pas du tout, ça leur sert. Les goyim, ils ont un super doué comme les juifs ont un super doué. Après, c'est la destinée des juifs dans les choix que les juifs vont faire, dans le choix que les goyim vont faire, dans le choix du leader des juifs, du leader des goyim, ils sont libres. On est libre, on n'est pas. C'est pas des robots. C'est pas. Moshe n'était pas un leader qui allait en tant que. Qui allait contraindre les Bnei Israël qui ne pouvaient pas. Les Bnei Israël, ils n'ont pas arrêté de se révolter contre Moshe.
Rav, est-ce que les prophètes ont vraiment un libre choix dans ce qu'ils disent, ou leur inspiration par Hachem leur enlève une partie de ce libre choix.
Non, ils ont l'obligation, ils reçoivent un message. Ensuite, la façon dont ils vont le retransmettre, le message, ça dépend d'eux. On sait, Yeheskel et Chayahu ont reçu des messages analogues sur le chariot divin, etc. Ils ne l'ont pas retransmis tous les deux de la même manière. Mais bon, Hachem sait très bien que ça dépend de la sensibilité des gens, de l'époque à laquelle ils vivent, l'environnement, etc. Tout va jouer un rôle. Depuis la pollution de l'air jusqu'à des mauvais sujets, des gens qui, des tribuns, etc. Tout ça, ça joue. Et ça fait partie de la liberté des peuples.
Du prophète.
C'est pas des paroles qu'ils doivent retransmettre que telles quelles. Ils reçoivent un message et c'est à eux de le mettre en forme. Est-ce qu'ils vont le dire? Est-ce qu'ils vont le chanter? Est-ce qu'ils vont l'écrire? Est-ce qu'ils vont le manifester? Est-ce qu'ils vont le clamer sur la porte, sur la place du village? Est-ce qu'ils vont aller dans le palais du roi pour lui jeter à la figure? Tout ça, c'est eux qui vont décider.
Mais dans le fond, ils sont obligés de dire tout ce qu'Hachem a dit, ou ils peuvent occulter des choses.
Normalement, quand ils reçoivent un message pour le dire, ils reçoivent aussi un message pour leur dire, est-ce que tu dois le dire ou est-ce que
Ah,
je veux que tu le gardes pour toi? Quand on leur dit tu dois le dire, ils doivent le dire. Et quand on
mais
leur
quel est
dit tu peux,
l'intérêt?
et quand on leur dit, et quand on leur dit tu dois le garder pour toi, ils n'ont pas le droit de le dire.
Et quel est l'intérêt? Enfin, quoi ça sert qu'ils le gardent pour eux? Ils en font quoi après?
Ils ont besoin de comprendre certaines choses ou de
D'accord.
comprendre une certaine tonalité. Ça doit les aider. Voilà, je te donne un message à transmettre. Maintenant, toi, il faut que tu saches dans quel état d'esprit je dis la chose.
D'accord.
Ça veut dire, de même qu'on a dit Korach qui était Pikéach et Bilam, qui sont des super. C'est des figures complètement tragiques. La tragédie, c'est pas quand quelque chose arrive qui vient de l'extérieur. La tragédie, c'est quand une personne est détruite par quelque chose qui vient de l'intérieur, qui vient d'elle-même. Et donc, que ce soit Korach, que ce soit Bilam, tous des gens qui avaient des potentialités fabuleuses. C'est une tragédie, pas seulement du côté des victimes, c'est aussi une tragédie du côté des tordus ou des pervers de. En fait, les trois choses qui sont là, dont on parle, des choses qui sont choses négatives, dont on a parlé au sujet de Bilam, c'est les choses qui sont dites dans Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, on dit aussi que il y a trois choses qui sortent l'homme du monde. Kina, Tava et Kavod. Kina, Tava et Kavod, c'est la même chose que ce qu'on a dit. La Kina, c'est le fameux Ayin Hara. Et le kavod, c'est justement ce que la folie des grandeurs de Bilam, et la tahava, l'hédonisme, c'est justement le contraire, c'est de jouissance à tout prix, quoi. Et la question qu'on peut poser, c'est pourquoi les Chazals utilisent des terminologies différentes? Puisque c'est la même chose que ce qui est dit sur Bilam, pourquoi est-ce qu'on dit d'un côté Kinata Vakavod, de notre côté Ainara, etc. Et pourquoi avoir des termes différents? Probablement qu'il y a des moments où il faut dire les choses de façon plus claire ou de façon. On voit bien que ce qui est dit dans Pirkei Avot, par exemple, c'est toujours un enseignement qu'il faut mettre en situation. Parce qu'on voit la transmission de la tradition, et à chaque fois, on nous dit, ceux-là, ils ont dit ceci. Et après, ceux qui viennent après, ils disent autre chose. Ils disent des choses qui sont des choses qui doivent être dites dans leur génération, dans la situation dans laquelle ils étaient, eux, qui est une situation qui n'est pas celle de la génération d'après ou de deux ou trois générations après eux. En vérité, dit le Khatam Sofer, la plus grande klala que Bilam puisse donner en réalité, c'est soyez comme moi. Bilam savait très bien quels étaient ses talents. Il savait bien que il était en train de gaspiller les talents. Chazal explique, c'est très connu, que Kalem, Kaflamed même, détruit-les, c'est écrit avec ces fameuses trois lettres, Kaflamed même. Le Kaf, c'est les clayotes, c'est les reins. C'est la source d'une passion sexuelle ou du désir extrêmement puissant. Le lamed, c'est le lèvre, c'est les émotions en général. Et le mem, c'est le moach, le cerveau. C'est se mettre intellectuellement, moralement au service des instincts les plus bas. Et l'opposé de Kalem, c'est-à-dire un arrangement différent des trois lettres, c'est comme chacun sait, le mot Meler, même Lamed Kaf. Là, le même est d'abord, le mot vient en premier. Ça veut dire que les émotions, les passions sont dirigées par l'intellect et par la morale, en fait. Donc c'est comme ce que Chazal disent quand ils disent Ezehu Gibor, Akovesh et Yitzro. Donc la puissance, la force, c'est d'être capable de maîtriser son Yetzer à soi. La force, c'est pas la capacité de gagner des guerres. C'est pas la force de Sisra ou de Goliath. Celui qui est, dit dans Tehillim, dans Michelet, que celui qui est capable de, justement, de se maîtriser, il est supérieur à celui qui conquiert une ville. On raconte que il y a un général qui revient, il a gagné la guerre, il est très honoré. Il y a quelqu'un qui vient et qui lui dit, tu as gagné la petite guerre. Maintenant commence la grande guerre. La grande guerre, c'est la guerre contre toi. C'est la guerre contre l'orgueil, etc., contre lequel tu vas devoir lutter, puisqu'on est en train de te couvrir de récompenses et de compliments. Je travaille sur l'espace intérieur, si vous voulez. Toujours bien plus difficile que le travail sur l'espace extérieur, si on peut parler de ça. Alors, il faut faire attention, on n'est pas en train de dire que le moir, le cerveau, dirige les émotions, les passions, et que les émotions et passions n'ont pas d'importance. En fait, on peut lire ça de deux manières, une manière un peu plus superficielle, qui dit que le cerveau empêche l'expression trop puissante de mes émotions. Mais de plus profondément, ce n'est pas un empêchement d'expression. Les émotions elles-mêmes sont transformées. C'est pas qu'on les laisse pas s'exprimer, on les transforme.
Il y a des natures d'individus qui sont plus difficiles à. On peut imaginer qu'il y a des natures d'individus qui essaient de des enfants de l'autre.
Oui, mais tout le monde est jugé par Hachem. Hachem tient compte des données de base. On va pas demander à quelqu'un qui est né dans une famille d'ignorants complets, qui n'a pas eu d'occasion de rencontrer des gens qui pouvaient lui ouvrir l'esprit, d'être à la même hauteur que quelqu'un qui a eu tout ça. Sans problème. Bien sûr qu'on va parler. On va regarder chacun ce qu'il a fait de ce qu'il avait, comment il a développé ce qu'il avait. En fait, la tentation, si vous voulez, de demander plutôt d'affaiblir les Bnei Israël en les maudissant, plutôt que de demander une bracha pour rendre Moab, Midian plus fort. Alors d'abord, si effectivement Balak, qui lui aussi était un magicien, comme Bilam. Donc, et lui, il savait, d'après certains, Balak savait pertinemment que Bilam n'avait pas le pouvoir de bénir, mais ça fait partie des flatteries. Ils sont venus dire, on sait très bien que celui que tu bénis sera béni, c'est pas vrai. Bilam n'a jamais béni personne, parce qu'il savait très bien que ça ne pouvait pas marcher. On voit aujourd'hui que les gens choisissent facilement le chemin de la klala plutôt que la bracha. Bien, excusez-moi, de voir ce qui s'est fait avec les Palestiniens. Ils ont reçu des sommes fabuleuses. Ils auraient pu changer complètement la situation de cette fameuse Palestine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé tout ça pour détruire les Juifs. Avec tout cet argent. Ils n'ont pas utilisé pour eux, ils ne se sont pas renforcés eux. Ils ont voulu abaisser et détruire les Juifs, c'est tout. C'est la même démarche. Alors, de la même manière qu'on a vu que les gens qui ont apporté des encensoirs. Leurs encensoirs ont été récupérés. Le cuivre de ces encensoirs a été récupéré. On l'a martelé, on en a fait une plaque qu'on a mise sur le misbéar pour protéger le misbéar. Les corbanotes que Bilam a demandé à Balak de faire. C'est pas quand Bilam a accepté d'aller avec Balak, il a cherché un point de vue, c'est-à-dire un endroit à partir duquel on pouvait voir le clan Israël, mais essayer de trouver une faille, bon, voir Israël. Trouver une photo, si vous voulez, un angle où on peut prendre une photo qui soit négative. Si on la sort de son contexte, etc., mais au moins, on pourrait avoir une vision négative. Et ça n'a pas marché, il n'a jamais trouvé. Hachem a fait en sorte qu'il ne trouve pas. Il faut dire, je devrais le dire, que finalement, Bilam, avec toute sa capacité de maudire en utilisant la colère divine, pourquoi il n'a pas pu maudire les Bnei Israël? Parce que, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'Hachem a changé l'ordre du monde pour sauver le clan Israël. Pendant ces jours où Bilam était occupé à essayer de maudire Israël, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas mis en colère. C'est-à-dire que le fait qu'Hachem se mette en ce qu'on appelle la colère, il faut, je sais pas quoi, qu'il faut il y a une soupape qui doit s'ouvrir quoi pour dans le fonctionnement du monde. Et donc il a changé l'ordre du monde pour sauver les Bnei Israël. C'est absolument incroyable. C'est la même chose que la sortie d'Égypte, quasiment. Changer l'ordre du monde pour empêcher Bilam. Alors là aussi, on voit quelque chose de très important. Hachem aurait pu rendre Bilam incapable de rendre incapable ces jours-là de savoir à quel moment Hachem va se mettre en colère. Non. Il n'a pas agi sur l'homme. Il a changé l'ordre du monde plutôt que de changer la capacité de priver Bilam de quelque chose qui lui avait été donné. C'est un pouvoir qu'il a. La question qu'on peut se poser est, ce pouvoir-là, finalement, qu'il a, c'est un pouvoir qui semble n'être que négatif. À quoi sert, c'est-à-dire plus exactement, quelle était la fonction de ce pouvoir qui était donné à Bilam de savoir quand Hachem se met en colère? Il faut imaginer qu'il y a des situations où c'était important de pouvoir diriger la foudre. Alors, j'ai pas d'exemple. Je connais pas d'exemple où ça aurait été important, où ça a été important de diriger la foudre. Je connais pas d'exemple où Bilam a pu utiliser cette capacité qu'il a pour éventuellement peut-être détruire quelque chose. Mais quelque chose, il y a des choses qui méritaient d'être détruites. Bon, je n'ai pas d'exemple où il a utilisé ça pour cela. Mais très certainement, il y avait une fonction. La fonction de ce qui lui est donné comme capacité de savoir, ça ne peut pas être seulement pour éventuellement croire qu'il peut faire du mal. Il avait une réputation. Que les clalotes qu'il donnait, elles marchaient. Donc, il faut imaginer que c'est des fois c'était à bon escient. Mais on n'a pas d'exemple de ça. Enfin, j'en connais pas. C'était des Midrashim que je connais pas, qui nous disent quand est-ce qu'il a fait quelque chose de positif. Pardon? Alors? Non, c'est pas son pouvoir. C'est le fait que, effectivement, lui, il est venu pour maudire. Mais sa bouche ne maudissait pas. Sa bouche Hachem a transformé dans sa bouche tout ce qu'il voulait dire de négatif en extrêmement positif. Mais à part Mavou, ou Alecha, à part cette bracha-là, toutes les autres, finalement, dans l'histoire juive, elles sont redevenues des malédictions. Ça voulait dire que c'était des malédictions, elles existaient comme malédictions, mais Hachem protège les Bnei Israël et il retourne. Quand le clan Israël le mérite, il retourne ses phrases, elles deviennent des phrases positives. Quand les Bnei Israël ne sont pas à la hauteur, eh bien, elles redeviennent ce qu'elles étaient. C'est-à-dire que c'est par ce biais-là, et depuis ce moment-là déjà, que les clalotes qui, quand elles sont tombées, étaient des clalotes, sont tombées sur le clan Israël, mais elles étaient déjà comme en réserve, sauf qu'Hachem a. C'est comme une espèce de sursis, quoi. C'est-à-dire que Hachem les a empêchés et au contraire, il les a transformés. Les Bnei Israël auraient pu se conduire de telle sorte qu'elles ne redeviennent jamais clalotes. C'est nous qui avons fait que c'est redevenu clalotes. Pardon? Elles ont, lui, ouais, dans ça, à la limite, si on peut parler, si vous voulez, c'est comme si dans le monde de sa pensée, c'était des clalotes. La bouche n'a pas obéi à son ordre. Hachem a mis dans sa bouche un processus d'inversion qui fait que là où il voulait être mekalel, il y a eu une bracha.
C'est pas bon, négatif, qui implique que la chaîne peut changer l'ordre du monde. Ça veut dire
Oui, probablement que non, pas leur changer l'ordre du monde. C'est-à-dire que quand, oui, si Hachem a changé les paroles négatives en positives, en brachot plus exactement, c'est que les Bnei Israël, à ce moment-là, en tout cas, méritaient que ce soit fait. Mais si vous voulez, ça fonctionne un peu comme les brachot. Les avot, ils ont reçu des brachot d'Hachem, des promesses même d'Hachem. La promesse, ils l'ont entendue, et malgré tout, que ce soit Abraham, que ce soit Yaakov, ils ont peur que ça ne se réalise pas. Mais quoi, ils n'ont pas confiance en Hachem? Si, ils ont parfaitement confiance. Sauf qu'ils se disent que Hachem n'a pas dit quand ça allait se réaliser. Ça va se réaliser dans leur descendance. Mais quand? Ça s'est ouvert. Quand il y aura effectivement dans leur descendance une génération qui mérite que ça se réalise à ce moment-là. Mais la chose est encore et toujours ouverte au sens où ça peut très bien dans cette génération, dans la suivante, etc., ne pas se réaliser. Il y a eu un moment où, effectivement, les Bnei Israël, non seulement ils ne méritaient pas que les brachot se réalisent, mais même ils méritaient que ce soit les klalot qui se réalisent. Elles étaient là, sous-jacentes. Hachem protège les Bnei Israël, n'a pas laissé la possibilité à ces paroles-là de se réaliser telles quelles. Bon, à l'échelle d'Hachem, peut-être, si on peut parler comme ça, il n'y a pas de différence entre une parole positive et négative. Ça dépend du récepteur. Ça dépend de celui qui doit recevoir la chose. Ça arrive des fois que quelqu'un, vous avez à prendre une décision. Et puis vous partez de chez vous, vous dites, ouais, je vais faire ça. Et puis on ne sait pas pourquoi. Enfin, on ne sait pas toujours pourquoi. On fait exactement le contraire. Il y avait une alternative, il y avait deux branches. J'avais choisi une branche. Et puis tout à coup, c'est l'autre que j'ai faite. Pourquoi? Peut-être que je me suis disqualifié ou bien que je me suis qualifié, ça dépend en quel sens ça va. Pour l'une des deux branches et pas pour l'autre. Alors quand les choses sont les brachot et les c'est les brachot pour le clan Israël, pour toute la vie du clan Israël. Alors ça veut dire que la bracha en question, c'est comme si à chaque génération on envisageait, est-ce que cette phrase-là, elle va se réaliser sous forme de bracha ou de klala? Hachem a fait, c'est qu'il a enlevé la détermination négative que Bila, complètement négative que Bilam avait choisie. Mais ce n'était pas définitif. La preuve, c'est que ça a bougé.
Par rapport aux charpentes, quand on voit que les actions qu'on fait, elles ont une importance pour l'économie qui va avoir, ici, on se trouve dans un contexte public où les actions des salles, elles auraient modifié clairement l'ordre public.
Si on entend ce qu'a dit le Shem Ishmoël, qu'en réalité, ce que voulait Balak, c'est que les Bnei Israël n'entrent pas en Eretz Israël. À la limite, s'ils se baladaient dans le désert pendant jusqu'à la fin des temps, ça ne l'aurait pas dérangé. Alors on peut peut-être penser que les actions des Bnei Israël, elles sont pesées. Est-ce qu'ils vont entrer maintenant en Eretz Israël ou est-ce qu'ils vont entrer plus tard? On voit très bien que Hachem avait promis qu'ils allaient entrer en Eretz Israël. Ensuite, il a décidé qu'il allait détruire le clan Israël. Il ne l'a pas détruit, il a détruit qu'une certaine génération et des hommes de la génération. Et du coup, l'entrée en Eretz Israël, elle a été déplacée d'une quarantaine d'années, quoi. Alors, bien sûr que tout a changé. Parce que l'Eretz Israël dans lequel ils sont entrés avec 40 ans plus tard, n'avait rien à voir probablement avec l'Eretz Israël dans lequel ils auraient pu entrer 40 ans plus tôt. Parce que 40 ans plus tôt, par exemple, il n'y avait pas eu 40 ans d'idolâtrie de plus sur la terre d'Israël. Peut-être qu'à ce moment-là, on n'avait peut-être pas besoin de détruire les goïms, parce qu'ils n'auraient pas eu la force de nous empêcher de pratiquer la Torah. Mais qu'après 40 ans de désert et un renforcement de l'idolâtrie en Eretz Israël, ben les Bnei Israël n'ont peut-être pas la force d'affronter les idolâtres sur leur territoire. Et donc, on était obligé de les exterminer. C'est sûrement pas quelque chose de complètement positif D'accord? N'oubliez pas que quand les Égyptiens se noient dans la mer et que les anges veulent chanter, Hachem leur dit, mais Maaseh Yadaï Tuvim Bayam, mes créatures se noient dans la mer et vous chantez. Mais les gens qui étaient en train de se noyer, c'est des capots. C'est des gens qui ont fait souffrir les Bnei Israël. Ok, c'est quand même des hommes. C'est des êtres humains. C'est Maaseh Yadav chez la Kadosh Baruch Hu. Et les Bnei Israël ont le droit de chanter parce qu'eux, ils sont délibérés. Ils sont délivrés, ils sortent d'une situation dangereuse pour eux. Mais vous les anges, n'avez aucune raison, aucun droit de chanter, alors que l'œuvre de mes mains, dit Hachem, sont en train de se noyer. Il y a dans le clan d'Israël, enfin dans toute l'histoire qui concerne le clan d'Israël, il y a, j'en avais parlé il n'y a pas si longtemps, il y a plein de paradoxes. Hazal disent que si quelqu'un s'occupe de Torah sérieusement, il s'imbibe vraiment, il est vraiment complètement dans la Torah, alors même s'il a fait des fautes extrêmement graves, il ne va rien lui arriver. Il ne lui arrivera rien au Guéhinnom. Il n'ira pas au Guéhinnom. La puissance de l'étude de la Torah, quand on s'investit complètement, elle est fabuleuse. Le Shabbat aussi. Si quelqu'un pratique le Shabbat complètement, même s'il a pratiqué de l'idolâtrie, il ne lui arrivera rien. Tellement le Shabbat est fort. Oui, il a mal tourné. Peut-être qu'il ne s'était pas bien investi. Il est devenu tzedouki. Ça veut dire qu'il n'était pas. Peut-être qu'il a été trop sûr de lui et qu'il pensait qu'il pouvait faire des choses, lire des choses, entendre des choses, sans que ça lui. C'est paradoxal. Mais le paradoxe est là. Mais aujourd'hui, on n'a pas de problème avec les paradoxes. N'est-ce pas? La lumière, c'est à la fois un corpuscule et une onde. D'accord? En même temps. Et le chat de Schrödinger, il est à la fois vivant et mort. Et c'est pas des blagues. C'est avec ça qu'on calcule. Il y a des expériences qui sont faites, il y a des choses qu'on fait, qu'on ne pourrait pas faire. Si on ne travaillait pas de cette manière-là. Donc la notion de paradoxe, c'est un paradoxe, mais en tout cas, en particulier dans la vie du clan d'Israël, c'est bourré de paradoxes. Nous sommes un petit peuple de rien du tout. Il n'y a pas de journée où quand vous ouvrez la radio, la télévision, ou vous ouvrez un journal, etc., où il n'y a pas d'informations importantes consacrées à Israël. C'est tout, c'est. Vous voyez, par exemple, une des choses qui ont protégé le clan d'Israël, c'est-à-dire que Bilam n'a pas réussi à trouver de faille, c'est que il y avait un plan d'urbanisme, si on peut parler comme ça dans notre langage. Dans le désert, quand les Bnei Israël s'installaient, À chaque fois, ils respectaient un plan d'urbanisme, c'est-à-dire les tentes étaient placées de telle sorte que l'un ne pouvait pas voir ce qui se passait dans la tente de l'autre, même quand il ouvrait les portes, etc. Donc on s'est arrangé pour camper de telle sorte qu'on préservait la sphère privée complètement. Il y a bien des endroits, et en particulier en Israël aujourd'hui, où c'est pas du tout respecté, y compris dans des quartiers soi-disant froum, toujours l'histoire de celui qui se lève au milieu de la nuit, qui va dans son frigo, il prend un verre de lait, le téléphone sonne, c'est la voisine qui dit: ça fait pas 6 heures que tu as mangé de la viande. Ça, c'était pas possible, hein. Pas forcément parce qu'il n'y avait pas le téléphone. Juste 2 mots sur Shiva Asar Betamouz. Donc, Shiva Asar Betamouz, il y a 5 tragédies, comme il y aura 5 tragédies aussi à Tisha B'Av, 5 raisons pour lesquelles on jeûne à Shiva Asar B'Tammuz. Mais des raisons pas toujours évidentes. Premièrement, on est 40 jours après Shavuot, il y a le veau d'or et il y a la destruction des louchot. Deuxièmement, il y a le siège des Romains sur Yerushalayim. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle Batel HaTamid. Le Korban Tamid, vous savez, je répète, c'est un Korban qu'on amène matin et soir, matin ou fin d'après-midi plutôt, Ben Arbaim. C'est un corban qu'on amène tous les jours, Shabbat, Yom Kippour, tous les jours. On amène ce corban, qui est un agneau. C'est un corban Ola, qui est complètement consumé. Et normalement, les corbanotes, ils viennent pour qu'on obtienne grâce à eux la kapara sur les fautes. Mais le corban tamid, il vient pour autre chose. Il vient pour nous permettre une vie beaucoup plus agréable. Celui du matin, il vient pour effacer les fautes de la nuit. En d'autres termes, le Corban Tamid du matin, il vient pour nous donner une page blanche pour la journée. Et le Tamid du soir, de la fin de l'après-midi, il vient effacer les fautes de la journée. Il vient pour nous donner une page blanche pour la nuit. Donc c'est un privilège incroyable. Bon, ça veut dire qu'on n'a pas, bien entendu, ça vient pas pour effacer si vous avez trucidé votre voisine. Ça va pas effacer la, mais ça efface les fautes courantes, si on peut parler comme ça. Donc c'est extraordinaire d'avoir chaque fois des journées, des nuits qui sont entièrement à notre disposition. On n'est pas empêché parce que il faut régler ce problème-là ou cet autre problème qui fait que ça nous bouffe la journée ou ça nous détruit la nuit, etc. Ça, c'était quand on apportait le corban au Beth Amikdash. Ça veut dire, on apportait un petit agneau le matin, un petit agneau le soir, pour tout le clan Israël. Tout le clan Israël avait cette page blanche, cette double page blanche. Ça, on l'a plus. Quand je dis qu'on l'a plus, ça veut dire qu'il n'y a pas la possibilité de faire une petite chose ou même une grande chose qui soit valable pour la totalité du clan d'Israël. Tout le monde peut avoir ses pages blanches, mais il faut au moins lire le texte qui décrit l'obligation d'apporter ce corban. Je dis, le lire, l'étudier, etc. Ça suffit. Ça suffit aussi. Seulement chacun doit le faire pour soi. Alors, ce corban, à Shiva Asar Betamouz, on a cessé de l'apporter toujours. Il s'appelle Tamid parce qu'on l'apportait tous les jours. Il y a eu un moment, donc, Shiva Asar Betamouz, a priori, on pense que c'est le Shiva Asar Betamouz avant Tisha B'Av où le Beth Amikdash a été détruit. Mais il y a un Rashi, dans un commentaire sur le Sefer Daniel, Rashi dit que c'est quelque chose qui a eu lieu 3 ans avant. C'est pas du tout l'année de la destruction, mais 3 ans avant. Donc ça veut pas dire que pendant 3 ans on n'a pas apporté de korban du tout. Ça veut dire qu'il était plus tamid. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on ne l'apportait pas. On ne pouvait pas l'apporter pour des raisons X ou Y. 3 ans déjà avant la destruction du temple, c'était devenu irrégulier. Quatrième chose, c'est qu'il y a un certain, qu'on appelle apostemos, il a brûlé un Sefer Torah. Alors, on ne comprend pas très bien. D'abord, on ne sait pas qui c'est Apostemos. Et brûler des Sifrei Torah, malheureusement, ça c'est arrivé plus d'une fois. Pourquoi tout à coup, parce que ce Apostemos a brûlé le Sefer Torah, on va jeûner? C'est une des raisons pour lesquelles on jeûne à Shiva Asar Betamouz. Alors, il y a deux explications qui sont données. Quand on dit qu'il a brûlé un Sefer Torah, c'était pas n'importe quel Sefer Torah. Il a brûlé le Sefer Torah qu'avait écrit Ezra. Le Sefer Torah que Moshe avait écrit, on l'avait plus puisqu'il a été enterré en même temps qu'on a enterré les Louchot. On les a enfouis dans la terre pour que ça tombe pas dans les mains des Goïms. Et dans le Haron, il y avait aussi le Sefer Torah de Moshe. Mais quand Ezra est revenu de Babel, il a écrit un Sefer Torah. Et c'était ça le Sefer Torah qu'on avait, le Sefer Torah de référence. Et c'est ce Sefer Torah que cet Apotemos, je ne sais pas comment il s'appelle, a brûlé. Donc c'est Hachouf, c'est important. Et il y a une deuxième explication d'un rabbin hongrois qui est aussi un historien qui dit que Apostemos s'était pompé. Le pompé, il était venu parce que vous savez bien que les Romains, ils se sont mêlés de nos affaires parce qu'il y a eu dans la descendance des Hachmonaïm un conflit entre deux frères qui revendiquaient tous les deux le trône. Et il y en a un qui a appelé les Romains, ses copains romains à l'aide. Il a amené Pompée, Pompée qui était à ce moment-là général. Et Pompée est venu. Et le premier décret que Pompée a pris comme gouverneur de la Judée en question, c'était de dire que la loi n'était plus la loi des Juifs, mais c'était la loi des Romains. Ça, c'est en moins 63, quelque chose comme ça. Et c'est ça qu'on appelle brûler la Torah. C'est pas, il a brûlé un Sefer Torah, mais il a brûlé il a supprimé la loi. Ça, c'est le quatrième. Le cinquième, c'est que on a mis une idole dans le Beth Amikdash. Alors ça non plus, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond, parce qu'il y a un midrash qui dit que les Romains ont essayé à un moment donné de mettre une idole dans le Betamigdash. On dit que c'est Caligula qui voulait le faire. C'est très possible, Caligula, il était complètement cinglé. Pourquoi il faisait pas ça? Bon, il a essayé, mais ça n'a pas marché. Et donc les Mefarshim ils disent que si on cherche quand est-ce qu'on a mis une idole dans le Beth Amikdash, vraiment, on, je ne sais pas, les Mefarshim ne sont pas arrêtés sur les Hashmonaïm, sur les Grecs avant les Hashmonaïm, mais ils sont allés chercher à l'époque des Mlachim, les rois idolâtres qu'on a eus, eux ils ont mis la base, on a des textes qui disent qu'ils ont installé des idoles dans le Betamikdash. Ce serait ça le. Donc c'est quelque chose qui a rien à voir avec la destruction effective ou le siège ou etc. Mais ça fait partie de. Donc ça voudrait dire que le Shiva Sabbat Tammuz il a une. C'était déjà une date depuis le début quoi, depuis la brisure des louchot, etc. Toute l'histoire nous amène à la destruction du Beth Amikdash, finalement. Voilà ce que je voulais dire sur juste quelques mots sur Shiva Sar Beth Amuz. On parlera peut-être une autre fois des cinq tragédies qui sont liées à Tisha B'Av. Voilà. Pardon? Oui, c'est un mauvais moment. C'est connu que les mois de Tammuz et de Av sont des mois difficiles pour le clan Israël. Voilà, Télim. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait dit. Il y avait cours, on a dit qu'il y avait cours. Les stakhanovistes. Alors, il y a cours dimanche. Ben bon, les Israéliens, ils ont le temps largement de manger. Et les Israéliens, les Français, bon. Oui, bon, Rachel, elle n'est pas tellement d'accord, mais la majorité des gens étant contre elle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez le droit, pendant le chiot, vous avez le droit de manger pendant le chiot. Vous pouvez venir avec votre pique-nique. Voilà, celle qui jeûne.